FM.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Zebda est le fruit d'une histoire associative. Zebda, c'est né d'une association dans le quartier nord de Toulouse. Ok, on est un groupe, on fait des chansons, tout ça et tout, mais à un moment, on a un état d'esprit dans lequel il y a aussi des gens qui font partie de l'aventure, mais qui ne sont pas sur scène. Ce sont des militants, des gens de terrain. Donc, on a toujours essayé de mettre en pratique cette cohérence-là, mais c'est que notre histoire le permettait. Parce qu'on était ancré dans une dimension militante, culturelle, dans les quartiers populaires nord de Toulouse. Quand on va créer Zebda, on va se rendre compte que c'est génial en fait. Un groupe de musique, c'est extraordinaire parce que c'est un formidable outil pour faire des choses, pour partager, pour occuper l'espace public, pour faire des tas de choses au quotidien. Et puis surtout, ça nous procure de l'autonomie économique. On ne devient pas éducateur, on ne devient pas dépendant. On est musicien, on gagne notre croûte avec ça, on est même capable de produire, de développer. Notre parole se libère parce qu'on devient autonome. Et comme on a une certaine expérience militante, notre parole est plutôt construite.
Salut les amis et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de La Voix Off qui s'ouvre avec celle de votre visiteur du jour, l'une des voix des groupes Zebda, Motivé, Mousse et Hakim, la voix de Mustapha Amokran, dit Mousse de Mousse et Hakim, les frangins Zebda comme on dit. Bonjour Mousse.
Bonjour.
Au micro avec vous, c'est JBD, et pour une fois, je vous le précise, puisque depuis plus de 20 ans, Zebda fait partie de mon histoire, comme sans doute de la vôtre, qui, comme la mienne, découle peut-être d'histoires d'immigration. JBD, c'est les initiales de Jean-Baptiste Diaz, patronyme qui fait pas très gaulois avec mon histoire familiale qui passe par l'Algérie, comme celle de votre invité, Mousse, copain, camarade, qui, même si on ne l'a jamais rencontré en vrai, est comme un ami, comme si on était de la même famille de pensée et de cœur. Pour cette conversation, vous voilà ce 27 mai 2017 à la soirée Au Quart de Tour dit Merci. Au Quart de Tour, c'est le festival organisé par Radio Béton, avec notamment à l'affiche de ce soir-là les rappeurs de La Rumeur et donc les Toulousains de Motivé. Et vous savez que dans cette émission, on aime bien l'histoire et la politique, ça tombe bien, votre invité aussi. On va donc causer plein de choses pendant une heure. Des guerres d'Indochine et d'Algérie, de l'immigration de 30 années pas si glorieuses que ça. On va parler d'historiques champs de lutte, on va aussi évoquer ce très beau projet de 2007, le répertoire Origine Contrôlée, chanson Made in France et écrite en français, en arabe et en kabyle. Et puis on va aussi faire de l'histoire plus récente avec le parcours de Zebda qui démarre début des années 90, passé par la campagne électorale des Motivés à Toulouse en 2001. Mais pour certains d'entre vous, et notamment les plus jeunes, même si Zebda, Motivé ou Mousse et Hakim, ça ne vous dit rien du tout, je suis certain que vous avez déjà entendu ça.
Nous, on a fait un tube hyper populaire. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Nous, on a fait un truc méga populaire. Un vrai tubas. Un truc de malade. Un vrai hit.
Immense tube signé Zebda en 99, la France entière a dansé là-dessus. Chanson diffusée sur toutes les radios, dans tous les supermarchés, tous les baloches, fêtes, booms et autres goûters d'anniversaire. Il m'est même parfois arrivé qu'on me demande de la passer sur France Bleu quand j'étais animateur sur ce réseau pourtant connu pour sa médiocrité et ses programmations musicales globalement à chier. Et il m'est un jour de 2009 arrivé un truc odieux dans une de ses stations France Bleu. Manifestation de racisme plus ou moins conscient et ordinaire sur mon lieu de travail, dans une radio d'État payée avec vos impôts et donc censé défendre les valeurs républicaines. Et cette malheureuse anecdote concerne les chansons du répertoire Origine Contrôlée, des chansons écrites en France par des immigrés algériens. Faut que je te narre une expérience personnelle. J'ai pendant une douzaine d'années été animateur en CDD pour le réseau France Bleu. Voilà que je me retrouve à travailler à France Bleu La Rochelle et j'étais responsable de l'agenda culturel. Je regarde le quotidien local et je vois les Frangins Zebda, Moussé Hakim, le répertoire Origine Contrôlée qui passait près de La Rochelle. Donc je fais l'interview, soit avec toi, soit avec ton frangin, par téléphone, l'un des deux en duplex depuis le Move à Toulouse. Je boucle un petit sujet super sympa et hop, j'envoie. Et là, mon responsable des programmes de France Bleu La Rochelle, fou de rage, me saute dessus en me disant « Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'as fait n'importe quoi !» Bon, moi j'en avais vu et entendu d'autres dans le réseau France Bleu, qui est quand même très blanc, faut l'admettre, enfin ça dépend des régions.
Oui, mais là je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible, non pas être
comme ça.
Possible.
Oui.
Je crois que ça va pas être possible, non pas être
non.
Possible.
Exact.
Et là, mon chef de service baisse d'un registre quand même, me convoque dans son bureau et m'explique très pédagogiquement la chose suivante. Il me dit, écoute, t'as dû te promener un petit peu à La Rochelle, intramuros, bon, t'as vu l'ambiance, c'est plutôt austère. Voilà, bon, il y a aussi ce passé, hein, La Rochelle, Nantes, Bordeaux sont des ports qui ont des choses en commun, n'est-ce pas, au niveau histoire et...
Et business de l'esclavage.
Ah oui, mais là, je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible,
non.
Pas être...
Désolé.
Possible.
Comme ça.
Je crois que ça va pas être possible, pas être possible.
Excuse, monsieur.
Et mon chef des programmes de France Bleu La Rochelle de poursuivre et de me dire non, mais si tu t'es promené à La Rochelle intramuros, t'auras remarqué en fait qu'il n'y a pas de noir et pas d'arabe. Même le vigile des nouvelles galeries à La Rochelle est blanc.
Je crois que ça va pas être possible.
Je crois que ça va pas être possible,
non.
Pas être possible.
Désolé.
Je crois que ça va pas être possible,
non.
Pas être possible.
Ah non, pas possible.
Moi qui m'a demandé de retirer mon sujet, évidemment, ce que j'ai fait, donc à la trappe, l'interview de Mousse ou de Hakim sur Origine Contrôlée. C'était Halloween à l'époque. J'ai pris le premier machin avec des citrouilles qui passaient. Je dis « Allô Monique, vous faites des citrouilles pour Halloween ?»« Ah bah oui, c'est formidable. » Et joyeux Halloween sur France Bleu. Et tout de suite, Daniel Balavoine, parce qu'on aime bien la Ziza quand même. Hein. Ouais. Tu te souviens, non, si c'est toi qui m'as accordé cette interview?
Ça doit être moi, parce que c'est plutôt moi qui m'y colle. Hakim, il en fait des fois, mais il est peut-être un peu moins bavard que moi. Donc c'est certainement moi. Je pense que c'est l'époque où je faisais une émission sur le Move qui s'appelait Francosonic. Donc voilà, c'est toujours intéressant ce type d'anecdote parce que finalement, c'est vraiment comment des gens décident de ce qui doit être ce que nous sommes en fait. C'est-à-dire, ce chef de service va dire qu'à un moment donné, parce qu'il n'y aurait que des blancs, il n'y aurait pas chez eux cette capacité à recevoir l'universel qui vient d'ailleurs, puisqu'on parle de musique en fait en plus. On parle de projets musicaux, on parle de gens qui ont côtoyé sûrement ces mêmes gens qui sont peut-être pas eux-mêmes méditerranéens ou hérités de l'immigration postcoloniale ou de la colonisation. C'est intéressant parce que en fait c'était tout le propos de notre projet à nous au fond, c'était de bien sûr de travailler sur ce registre-là, de faire un travail de ressources, de valider la transmission qu'on avait reçue nous, c'est-à-dire ce projet, donc chanson de l'immigration algérienne. Origine Contrôlée, on le définit comme ça en termes de style musical, mais en réalité c'est pas une encyclopédie du tout de la musique algérienne, c'est les chansons préférées de notre père. Donc pour nous, c'était important avec mon frère Hakim de mettre cette dimension-là. Notre père, qui bien sûr donc est un immigré algérien, mais qui est aussi un travailleur, un ouvrier, un maçon, quelqu'un qui avait une histoire particulière, qui est un berbère. Je veux dire, une histoire qui est beaucoup plus complexe que le simple fait d'être un arabe en France, quoi.
Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau piqueur. Qui a construit cette route, qui a bâti cette ville et qui n'habite pas. À ceux qui se plaignent du bruit, à ceux qui condamnent l'odeur. Je me présente, voici, je m'appelle la vie maman.
C'est notre père qui arrive en France en 1963. Notre mère va arriver 3 mois après. Notre père est quelqu'un qui, donc voilà, qui ne sait ni lire ni écrire, bon, qui est maçon, mais qui parle le français assez bien, puisqu'il a fait, il a été tirailleur algérien en Indochine notamment. Donc il est médaillé, croix de guerre, tout ce qu'on fait. Bon, je dis ça, c'est juste pour situer qu'à un moment, il a des éléments culturels bien plus riches que certains chefs de service de France Bleu.
Oh, tu sais, celui-là, je lui jette pas la pierre, parce que je pense qu'il ne fait que répercuter aussi les consignes qui sont plus ou moins données entre les lignes.
Bien sûr, il non, mais bon, tu me racontes cette anecdote, forcément, elle me renvoie quelque chose de négatif, si tu veux. J'ai un peu envie d'y rentrer dedans, mais gentiment, après tout, j'en ai rien à foutre, on se connaît pas, et on se connaîtra sûrement jamais, mais j'ai juste envie de renvoyer la pierre, de se dire que le courage... c'est quelque chose qu'on retrouve, j'avais envie de dire, plus facilement chez ceux qui font que chez les chefs, quoi. Donc, c'est des réalités, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, sa décision, elle a une incidence. Elle a une incidence. Donc, lui, il considère peut-être que ça n'a pas d'importance, mais il se trompe.
Si, si, je pense qu'il considère que ça a de l'importance. La preuve, c'est que ça l'a vraiment mis en colère. Enfin, puis là, parce que la consigne qu'on nous disait, il faut faire de la radio qui ressemble le plus aux auditeurs de la région où vous êtes. Donc, on suppose en fait que les auditeurs de La Rochelle, ils sont plutôt racistes.
Mais c'est quand même vraiment débile de dire ça, de supposer ça. Parce que c'est faux. Nous, on y a joué là-bas avec Origine Contrôlée. Les gens, ils ont dansé. On a même joué en Vendée. On a joué dans le jeudi Vendée parce que c'est peut-être encore plus blanc que. Et peut-être plus conservateur que dans d'autres endroits de France. Ça s'est toujours très bien passé. Nous, notre proposition, c'était la dimension universelle. Il y a des France Bleues qui nous ont diffusés. Je veux dire, quelque part, si tu veux, c'est une décision un peu comme ça, qui est plus de l'ordre de la fuite que de la prise en main. Je ne fais que le noter, c'est pas très grave. Ça n'a rien empêché de notre projet. Ça me permet d'affirmer un peu plus le rôle qu'on a voulu donner à notre projet. Une dimension universelle. La dimension universelle, comment on la donne ? On la donne en faisant les chansons préférées de notre père. C'est-à-dire, on dit juste qu'on parle de transmission d'un père à ses enfants ou aussi d'un grand-père à ses petits-enfants. Et ça, finalement, tout le monde peut se retrouver là-dedans, quelle que soit son histoire culturelle. La force de créer les conditions de l'empathie pour l'histoire de l'autre. Ah, mais c'est quoi ton histoire ? Elle m'intéresse, en fait. Peu importe que tu sois juste... l'arabe en France, ou le sénégalais en France, ou je ne sais quoi, enfin, ou l'italien en France, ou... c'est pas ça la question. La question, c'est, et si tu pouvais m'en dire un petit peu plus ?
On en a beaucoup parlé dans les radios de Radio France, hein, cela dit, d'Origine Contrôlée.
Oui, bien sûr, on a été très accompagnés par le Radio France.
J'ai entendu des émissions sur France Inter et sur France Culture aussi, me semble-t-il, et ce projet, il a un petit peu vieux, il a
2007.
J'ai été assez stupéfait de voir que ces chansons, elles sont chantées au moins en trois langues.
Français, alors nous, dans ce qu'on fait nous, c'est français, arabe et kabyle, berbère. Voilà, donc trois langues.
Dans ces chansons, il y en a qui... Parce que l'immigration algérienne, nord-africaine et notamment algérienne en France, elle est bien vieille. Il y avait déjà beaucoup de maghrébins en France qui faisaient les ouvriers dans les années 30.
On sait que c'est même le métro parisien a été aussi construit par des travailleurs algériens. Donc début du 20e siècle, quoi. Donc oui, après il y a un lien de proximité aussi, de fait, avec l'Afrique du Nord. Bonsoir, après il y a l'histoire de la colonisation. Et puis après il y a... Oui, c'est vrai que c'est une main d'œuvre très proche et très... qui a été, on le sait tous, très utile à des périodes d'industrialisation forcenée de la France ou de réindustrialisation. Et du coup, ben, c'est une main-d'œuvre qui a été trouvée très facilement de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis comme les flux migratoires, finalement, ça fait partie de l'humanité. C'est-à-dire que l'être humain, il y a un moment où s'il a la possibilité de s'imaginer un avenir meilleur, il ne va pas hésiter une seule seconde, en fait. S'il se dit, bon, mais là où je suis, c'est trop dur, c'est trop difficile, pour des tas de raisons, économique ou géopolitique ou je ne sais quoi, il va se dire, si je peux aller ailleurs taquiner un avenir meilleur, comme on dit à Toulouse, il n'hésitera pas. Et donc c'est ça, cette logique-là qui fait qu'au fond, on n'empêchera jamais ce type de mouvement-là, quoi. Et donc après, ça fait des histoires particulières, comme la nôtre en France, puisque nous, on est Toulousains, hein, donc on est né à Toulouse, donc nous, on n'est pas des immigrés, mais en même temps, on dit qu'on est Toulousains, parce que pour nous, c'est aussi une façon de dire, hein, plus que français, quoi. C'est-à-dire, bon, ben, Toulousain, tu peux pas dire plus que ça. Et en même temps, ça nous permet d'affirmer, avec ce type de projet aussi, la diversité de nos influences, quoi, c'est-à-dire de ce qui nous construit. C'est-à-dire que nous, on pense que nos identités, elles sont multiples. On a des identités sociales, on a une identité culturelle, on a une identité politique, ça dépend, on a une identité territoriale, où on a grandi, dans quel contexte, milieu rural, urbain, enfant de quelle histoire, enfin, je veux dire, il y a des tas de choses qui jouent sur la construction de ton identité, et pas seulement le fait de se mettre sous un drapeau, sous une bannière quelconque, c'est plus l'idée de... Et la musique, elle joue ce rôle-là, parce que ces artistes-là qu'on évoque dans Origine Contrôlée, nous on disait, d'ailleurs, ça nous a permis d'évoluer aussi dans notre rapport à ces morceaux qu'on entendait tout petit, d'abord de les comprendre et de comprendre en fait que c'est vraiment des chansons de France.
Dans ces chansons qui sont parfois chantées pas en français, ces chansons, elles ont été faites sur le territoire métropolitain français.
Oui, parce que dans ce flux migratoire, donc il y a cette dimension ouvrière, bien sûr, et elle est forcément accompagnée des musiciens qui font partie de la bande, quoi. Dans ces mouvements-là, il y a des artistes et des musiciens qui, après l'usine, le soir au cabaret, jouent des morceaux ou en écrivent. Et qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils racontent le quotidien de ces immigrés.
En France.
En France. Donc du coup, ils racontent, à partir de l'exil, du traumatisme de l'exil et tout ça, ils racontent cette histoire-là en chanson, en musique. Du coup, nos pères ou nos mères, quand elles écoutent ça, elles sont apaisées parce que la musique joue son rôle. À un moment, leur douleur, leur traumatisme, parce que voilà, la réalité, c'est que bon, on quitte pas sa famille, ses amis comme ça par plaisir. Mon père, quand il arrive en 63, c'est juste parce qu'il n'avait pas le choix économiquement. S'il l'avait eu, il serait pas parti. Et il a laissé sa mère, ses sœurs, ses frères plus petits et qu'il était en même temps voilà, un peu déchiré. Mais il l'a fait parce qu'il s'est dit, ça va permettre à tout le monde de s'en sortir. Ce qui a été le cas. Donc je dis ça pour dire que les artistes racontent son histoire. Et lui, mon père, il disait, oui, mais lui, de toute façon, il m'a aidé à supporter. L'artiste l'a aidé à supporter, la poésie, le mot, le bon mot, l'harmonie.
Si on devait en choisir une de ces chansons-là pour mettre maintenant, tu choisirais quoi ? Laquelle ?
Oh, je choisirais une chanson de Sima Nazem.
D'après ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence.
Sima Nazem, c'est l'artiste préféré de notre père. C'est un grand fabuliste berbère, kabyle. Lui, il est arrivé en France dans les années 40. Donc... Il a commencé par travailler dans l'est de la France à Longwy. Après, il a été à Paris où il a monté un bistrot. Donc, d'ailleurs, souvent, il y a eu des bars qui se sont créés autour de ses expériences musicales. Et donc, c'est un artiste qui a écrit des chansons sur toute cette histoire-là en kabyle. Et c'était son artiste favori, un grand poète. Et la chanson, ça s'appelle « La carte de résidence ».
C'est vraiment bien dommage, le racisme et le chômage. Heureusement qu'il y a des sages, c'est le prestige de la France. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance.
C'est une chanson qu'il a écrite à la fin des années 70, par contre, qui raconte le rapport au papier, justement, et avec un certain décalage. Et très tôt, cet artiste, il se dit, je vais chanter un peu en français parce que les enfants de ceux qui m'écoutent, ils parlent plus le kabyle, alors il faut qu'ils comprennent ce que je dis. Donc il y a une partie en français, une partie en kabyle. Voilà, c'est une chanson que moi, quand j'étais enfant, quand je l'entendais dans la voiture, dans la 403, je sentais toute la dignité qui émanait de l'artiste et de mon père en train de l'écouter.
Toujours des conversations, le chômage, l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce, chaque fois ça recommence.
Tout ce truc de dire, ouais, vous avez beau nous regarder de cette manière-là, mais regardez toute la dignité qu'on a, on se permet de chanter, de vous dire des choses comme ça.
fait ce qu'on nous annonce, ça va dans un bon sens. Faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse. Avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence.
La sorkin hini mani, il la warren des boutiques. La flamorin t'aime syndic, qu'on laisse de les conférences. Qu'on laisse de les conférences pour étudier tous les sens.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France bien avant la résidence. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux.
À l'instant, Slimane Azem, un artiste choisi par Mousse. Alors Mousse de Zebda, de Motivé ici, on va aussi en parler ce soir. Mais là, je voulais revenir sur un projet que tu as mené avec ton frangin Mousse et d'autres musiciens. Projet intitulé et le disque Origine contrôlée. Et ces chansons là qui ont bercé votre enfance avec ton frère, elles étaient sous quel support? C'était des vinyles, des cassettes?
Principalement les cassettes. On les a toujours, les cassettes de notre père. Il y avait quelques vinyles, quelques 45 tours notamment, et quelques vinyles 33 tours. Ouais. En grandissant, on a retrouvé les versions CD pour notre père. On lui a acheté des coffrets de ses artistes préférés. Mais c'était principalement la cassette. La cassette pour la voiture.
Vous l'avez toujours, votre père?
Non, on l'a perdu il y a à peu près bientôt 2 ans. Ouais, ça fait partie de la vie. Mais c'est vrai que quand on a fait le projet Origine Contrôlée, il était vivant.
Ça lui a fait quoi?
Ben ouais, mais il faut savoir que quand on a fait Origine Contrôlée, on avait déjà fait Zebda avant. Donc on avait aussi eu tout un parcours très... Zebda est motivé, très riche, avec en plus la chance d'avoir une reconnaissance importante et tout, avec Zebda notamment. Et quand on a travaillé sur Origine Contrôlée, notre père, je pense, ça lui a permis de comprendre ce qui fait qu'on était devenus musiciens. Parce qu'il s'est toujours posé la question, comment ça se fait que mes enfants... Il soit devenu musicien au travers de Zebda.
Ça lui plaisait ou il voyait ça d'un œil favorable?
Ça lui a plu quand il s'est rendu compte qu'on gagnait notre vie. Avant, ça lui plaisait. C'est pas que ça lui plaisait ou que ça lui plaisait pas. Ce qui lui plaisait pas, c'était l'idée qu'on gagne pas notre vie. Bon, comme tous les parents, je veux dire. C'était... Après, il a vraiment vu la réussite de Zebda, enfin notre réussite professionnelle et tout ça. Donc ça a complètement... Ça, il a adoré. Et en plus, quand on a travaillé sur Origine Contrôlée, on a carrément travaillé avec lui en studio. Il nous a aidé sur les prononciations. On l'a impliqué. Et là, il était super heureux parce que d'un coup, il réalisait que lui, c'est sa mélomanie qui nous a mis aussi sur ce chemin-là. Parce qu'il connaissait tous ses artistes par cœur et il les écoutait en fait en permanence, en réalité. Et quand on a choisi les artistes, il nous disait, ouais, il nous aidait sur les traductions, les prononciations. Donc, il nous a aidé à enregistrer l'album, quoi. C'était fabuleux.
Mais tout l'Empire n'est pas libéré encore. L'Indochine, elle sera reconquise un jour. Et près d'Alger s'organise déjà le corps expéditionnaire destiné à cette tâche impériale.
Le haut commissaire de France en Indochine a déclaré: nous ne venons pas apporter la guerre et récolter de nouveaux lauriers. Nous venons rétablir l'ordre, le travail et la tranquillité.
Est-ce qu'il vous parlait de la guerre, votre père, l'Indochine?
Alors, il nous en a parlé parce qu'en fait, je crois que tous ces projets-là, d'ailleurs, au moment d'Origine Contrôlée, ça a déclenché de la parole, en fait, parce qu'on a créé une relation avec lui qui était autre que dans le rapport, justement, à l'artistique, aux artistes, à la poésie, donc à l'émotion. Alors qu'avant, on écoutait les artistes, mais ils n'expliquaient pas. Il fallait qu'on se débrouille avec ce qu'on entendait. Là, comme on travaillait dessus, ils nous expliquaient le sens. Le sens que ça avait à la fois la traduction, mais aussi dans le contexte, à la conjoncture politique d'époque et tout. Donc après, il nous a raconté un peu l'Indochine, la guerre d'Algérie. Voilà, il nous a raconté ce qu'il a vécu lui-même. En fait, après, tu comprends pourquoi il est venu en France en 63. Lui, il est né berger. Voilà, il est né dans un milieu ultra pauvre, dans la montagne Kabyle. Il est parti faire l'armée parce qu'on lui proposait, par rapport à ce qu'il avait, la France lui proposait beaucoup d'argent. Hein.
C'était une sacrée promotion sociale que de devenir soldat de l'Empire. Hein.
Ben ouais, il partait en Indochine, donc du coup il allait gagner un peu d'argent pour nourrir sa famille par rapport à lui qui à 12 ans était travaillé dans les champs pour les colons et on le payait en cajot de pommes de terre. Quoi. Il nous racontait, voilà, en cajot de pommes de terre, il y avait les cajots de pommes de terre pour les animaux et pour nous. Et après quand il est devenu militaire, bon ben là on lui donnait son âne trébuchant. Mais bon, il risquait quand même sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'il a été blessé. Il a été prisonnier. Et quand il est rentré en Algérie, après, voilà, donc ça a été la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, il était dans la montagne. Et c'était une période très dure pour eux, parce qu'il y avait à la fois le rêve d'indépendance, mais aussi un entre-deux-feux terrible.
Les meurtriers et les émeutiers ont dressé contre eux la force française.
1954, François Mitterrand, ministre de l'Intérieur.
L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne.
C'est au peuple que, dès le 1er novembre, les Junoud se sont adressés.
Peuple algérien, pense à ta situation humiliante de coloniser. Avec le colonialisme, justice, démocratie, égalité ne sont que leurs et du prix. Nous t'appelons à reconquérir ta liberté au prix de ton sang. Se désintéresser de la lutte est un crime.
Ce n'était que des gens que des paysans, quoi, que des bergers qui étaient en déplacement, qui étaient des réfugiés souvent. Ils racontaient comment ils se déplaçaient d'un village à l'autre la nuit, parce que à la fois c'était soit les militaires français, quelquefois les moudjahides, les révolutionnaires algériens. Bon, il pouvait y avoir un peu, enfin, comme ça, un peu une période de guerre terrible. Et quand il arrive à l'indépendance, il se rend compte qu'il ne possède rien, qui sont toujours aussi pauvres, et donc là ils décident de partir en France. Mais il nous l'a raconté, bon, je rentre pas dans les détails parce qu'il y a des trucs très intimes, très personnels, mais il a raconté, je pense, du fait aussi que nous on se mette à raconter son histoire. Je pense qu'il a d'un coup éprouvé le besoin de le dire. Là j'entends que la balance est en train de se faire, et en fait je crois que je vais aller la faire. Excuse-moi, hein, je coupe en plein milieu. Si tu veux, on reprend tout à l'heure.
Pour la balance de ce mini-festival au quart de tour, les motivés ont repris un autre tube de Zebda qui raconte l'histoire de Zebda, sorti en 98.
Vous voulez chanter des belles casques maintenant. Il fallait qu'on s'y risque car c'est l'usine qui ouvre ses bras en criant. C'est donnant, donnant. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a fête.
Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non, non.
C'est ainsi qu'on est parti sur les routes. Les kilomètres auraient mérité, tu t'en doutes. Le mot respect ou qu'on nous donne un diplôme, parce qu'on n'était pas dans un beau sous-marin jaune.
Croyez-le, y'a pas eu de miracle. On a passé demi-tour au premier obstacle. On a passé demi-tour et pour cette place,
sous le déluge,
on a roulé sans essuie-glace.
On a caché ce qu'on avait de plus précieux, la cagoule et puis les bottes de sept lieux. On mouillait le maillot tout à la fois, être trimard et saltimbanque, tu le crois.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a fête. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas, y'a pas d'arrangement.
L'autre jour j'ai même dit à Mousse, il faut leur dire plus de couscous. Moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets, les taboulets, tous les poulets, poulets.
Je me souviens on était tellement pliés, on a envié
deux secondes
le monde ouvrier. Allez roulez si t'as plus rien dans le ventre. On vient, on met le feu et puis on rentre.
La vie de bohème peut se résumer ainsi. Je me promène avec madame pharmacie. Camol, Doliprane et Sagidal sont les trois mamelles des tueurs de balles.
Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, se regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
cette folie on l'a fête. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'en a pas, y'en a pas, y'en a pas, non, non, non.
on est en train de parler du répertoire Origine Contrôlée avec Mousse et son frangin Hakim, Zebda, Motivé. Il y a eu notamment pas d'arrangement. Et bon, ça fait toujours le petit frisson dans la colonne vertébrale. Non, ouais, putain, c'est bon. Merci, merci les gars. Juste, j'étais mort de rire parce que pour moi, la première fois que je vois Zebda sur scène, alors je les ai ratés au Chaînon Manquant à Tours où vous avez joué devant 15 personnes. Et pour moi, le grand souvenir de Zebda, c'est au quart de tour 1995. Et je vous regardais balancer tout à l'heure, et pour moi, dans mon imaginaire, bah, les deux frangins Zebda, Mousse et Hakim, c'est deux mecs qui ont moins de 30 piges, quoi. Et ben, laisse-moi te dire que vous êtes très bien en papa, tous les deux.
Ah ouais, on est darons, eh oui, bien sûr, on est darons. On est darons à 50 piges. Voilà, cette année, j'ai 50 ans, Hakim a 49 ans. Le temps passe vite, et puis c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que c'est hyper nourrissant, tout ça, quoi. Le regard des gens, les sourires, la reconnaissance, voilà, l'envie qu'ont les gens d'être avec toi. Voilà, de te soutenir et tout ça, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça préserve et on a été hyper nourris. Ça nous renvoie à cette idée quand même de fait que l'être humain, la reconnaissance, il en a besoin, quoi. Ce regard, comment dire, bienveillant que les gens peuvent porter sur toi parce que tu fais de la musique, que t'es sur scène et que tu leur as amené un peu d'énergie, enfin, tu veux dire, un peu de plaisir musical, enfin, et puis avec un peu de sens aussi, quand même. Dans Zebda, je crois qu'on a essayé de relever un défi, c'était que la musique et le texte aient la même importance en fait. Parce que dans la chanson française, il y a un fonctionnement qui dit en gros que le texte c'est 90% d'importance et la musique le reste. Donc un accompagnement piano, un violoncelle, une guitare acoustique. Nous dans Zebda, on voulait que la musique elle ait toute sa place, c'est-à-dire on savait qu'on pouvait aller jouer en Italie, en Espagne, l'esprit antifasciste transpiré du style musical. Et après le texte était aussi très très important, mais c'était à égalité finalement. Mais c'était un défi très compliqué à relever en fait, techniquement, artistiquement, parce que quand la musique prend du volume, le texte disparaît un petit peu, la compréhension disparaît un petit peu, là je parle juste d'écoute et tout. Donc du coup l'idée c'était d'arriver à faire qu'on perçoive un climat universel comme ça, bon, d'antifascisme, j'allais dire primaire, mais bon voilà, salvateur on va dire, et d'occuper ces espaces-là. Je pense qu'avec Zebda on a assez bien réussi ce pari, puisqu'on n'arrive nous-mêmes pas à se définir en termes de style, mais je crois qu'il y avait une alchimie de toute façon de groupe, c'est ce qui fait que les groupes sont souvent mythiques d'ailleurs. Entre Magide, les deux frangins, mais aussi Joël et Rémi, les musiciens du groupe quand même. Parce que là, Zebda, on ne l'a pas fait qu'à trois. Ni que Magide, ni que nous. Il y avait aussi les autres. Hein. Il y avait aussi Joël et Rémi, notamment Pascal et Vincent dans la première période, qui a fait qu'on a réussi à créer une tambouille qui nous permettait d'inventer ce style musical Zebda. C'est du Zebda, je crois qu'on peut...
J'étais mort de rire tout à l'heure, parce que je t'entendais raconter que Zebda, en arabe, ça veut dire beurre.
Et le beurre, c'est parce que nous, à l'époque où on fait naître Zebda, nous, les enfants de l'immigration algérienne, on nous appelle les beurres. Je crois qu'on nous appelle les beurres simplement pour pas dire qu'on est français, mais enfin bon. Et nous, comme on est de Toulouse et que le verlan fait pas partie de notre argot, le mot beurre nous fait rire, quoi. On dit, mais ils nous appellent le beurre, quoi. On trouvait pas ça insultant, mais on trouvait ça ridicule en réalité. Donc on a dit, pourquoi pas s'appeler Zebda, le beurre. Et ça nous a fait marrer, et puis on trouvait que ça sonnait bien, donc voilà.
Par terre, c'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. S'il y a pas plus d'anges dans le ciel et sur la terre, pourquoi faut-il qu'on crève dans le ghetto? Plutôt que d'être issu d'un peuple qui a trop souffert, j'aime mieux élaborer une thèse qui est de pas laisser à ces messieurs qui légifèrent le soin de me balancer des ancêtres. On a beau être né rive gauche de la Garonne, converser avec l'accent des cigales, ils sont pas des kilos dans la cité gasconne à faire qu'elle soit pas qu'une escale. On peut mourir au front et faire toutes les guerres et beau défendre aussi joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à se tomber à Monte Cassino, à se tomber à Monte Cassino.
En 1944, à la bataille du Monte Cassino, des soldats d'Afrique du Nord sont morts sous uniforme français. Dans Le Bruit et l'Odeur, cet autre tube de Zebda sorti en 1995, hommage à ces Nord-Africains tombés pour la France, qu'ils étaient venus libérer de l'occupation nazie. Et avant de retrouver Mousse, on va revenir sur notre ami Pat,
Pierre Alban Thomas. Vous savez, c'est le résistant devenu militaire de carrière que vous avez beaucoup entendu dans cette émission. Pat arrive en Algérie en 1954, à la veille de la guerre d'Algérie. Et c'est un notable algérien qui lui apprend les massacres de Sétif du 8 mai 1945.
Pour le 8 mai 1945, il y avait un certain nombre d'anciens combattants qui voulaient obtenir les mêmes droits que leurs camarades français. C'était des anciens combattants. Leur pension était 7 fois inférieure à celle des métropolitains. Alors ils disaient, c'est pas juste, nous, sur les champs de bataille, on a couru les mêmes périls ensemble. Pourquoi est-ce que maintenant, on nous donne 7 fois moins de pension que les autres? C'est pas juste. Et alors, ils ont brandi des pancartes pour réclamer leurs droits. Et puis, se sont joints à eux d'autres qui réclamaient d'autres droits que les Européens avaient et qu'eux n'avaient pas. Tout ça aidant, ils ont fait un cortège très impressionnant dans ces 3 villes-là, Sétif, Guelma et Kerata. Et puis, ils se sont glissés parmi eux d'autres qui étaient ceux-là des nationalistes et qui ont brandi des drapeaux qui sont devenus par la suite les drapeaux de l'ALN, qui ont réclamé l'indépendance. Là, la police française est intervenue, a voulu saisir des drapeaux. Eux ont résisté, n'ont pas voulu les rendre. Alors il y a eu des coups de feu d'échangés. Il y a eu plusieurs porteurs de drapeaux qui ont été abattus. Des échanges de coups de feu entre certains d'entre eux, ces nationalistes qui étaient armés. Et puis ils sont partis dans leur ferme, ils ont recruté des amis et ils sont descendus dans les villes peuplées de Français. Et puis là, ils ont massacré. Il me semble me souvenir que c'est 78 Français d'origine plus une trentaine d'Algériens collaborateurs. Il y a eu une réplique immédiate sur toutes les populations voisines. Le chiffre officiel a été de 1200 et quelques victimes algériennes. Le FLN par la suite, eux ont évalué ça à 30 000, mais c'est beaucoup exagéré. Et les historiens sérieux disent qu'il y a eu entre 12 000 et 15 000 morts, ce qui est déjà énorme, hein, parmi la population civile. C'est une réaction plus que brutale. Et c'est le général Duval qui était chargé de cette mission de représailles. Le général Duval a même ajouté « Je vous donne la paix pour au moins 10 ans ». Il ne s'était pas trompé.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je dois vous dire adieu, sachez bien que mes aïeux ont combattu pour la France. Ont combattu pour la France bien avant la résidence.
La première armée française en particulier, c'était ça. Les Arabes sont arrivés à Poitiers en 732, mais c'est une majorité d'Arabes qui ont libéré la France. Ils ont d'abord été en majorité à Monte Cassino, campagne d'Italie. Et ces gens-là avaient l'amour de la France. C'était des Noirs, des Maghrébins.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si nous devons vous dire adieu, sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que nos aïeux ont combattu pour la France. Sachez bien que...
On peut mourir au front et faire toutes les guerres, et beau défendre aussi joli drapeau, il en faut toujours plus, pourtant y'a un hommage à faire à ceux tombés à Monte Cassino. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur, le bruit du marteau du cœur. Le bruit et l'odeur, le bruit et l'odeur.
Donc c'est quand même un truc qui dans l'histoire, tant qu'on ne voudra pas regarder ça en face, on ne comprendra pas le traumatisme qu'il peut y avoir dans certaines familles. Le jour de la libération ou de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, certains parlent de 30-40 000 morts dans une journée.
Pour les massacres de Sétif, hein, voilà. Ce qu'on appelle les massacres de Sétif.
Qui vont être d'ailleurs les prémices de la guerre d'Algérie. Il y a quand même cette ambivalence historique, c'est-à-dire à la fois une victoire contre le nazisme et voilà, et puis d'un autre côté, une barbarie qui se poursuit à l'égard d'une partie du monde, quoi. C'est-à-dire ce rapport de domination à coups de poing dans la gueule. C'est nous les boss, et si vous bougez une oreille, on vous flingue tous. C'est ce qu'a fait De Gaulle. Hein.
Je vous ai compris.
Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler? Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Et il faut enfin ouvrir le grand débat qui s'impose dans notre pays, qui est un vrai débat moral, pour savoir si il est naturel que les étrangers puissent bénéficier, au même titre que les Français, d'une solidarité nationale à laquelle ils ne participent pas puisqu'ils ne paient pas d'impôts.
Le discours de Chirac, tu sais dans quelle ville il est enregistré ?
À Orléans. À Orléans, quelques années avant, en 91, nous on l'a sorti en 95. Mais c'est vrai que c'est une idée qui trottait dans la tête et il y avait cette idée de réponse en chanson. Donc c'est arrivé que sur le deuxième album de Zebda, Le Bruit et l'Odeur, qui va s'appeler comme ça d'ailleurs, l'album aussi. Et bon, il y a cette formidable parade qu'a trouvé dans le texte Magide, Le Bruit et l'Odeur, Le Bruit du Marteau Piqueur. Et ce texte aussi très bien foutu. Et après, il y a cette musicalité trouvée par Rémi, et puis les refrains qu'on a pu trouver avec mon frère Hakim. Ce qui était marrant, c'était l'alchimie à la fin, de se dire, on était en studio en train de l'enregistrer à Paris, et un pote à nous dit, j'ai un pote qui est stagiaire à RTL, il peut se procurer le discours. Donc on récupère le discours au dernier moment. Et on se dit, on le met dedans, on le met pas, on le met dedans, on le met pas. Et je me rappelle, on a un grand débat entre nous pour savoir où on place le discours, dans la chanson. On a un débat qui va durer des heures, hein. Et on finit par se dire, ok, on va le mettre à la fin, sur un passage musical qu'on va rajouter, et on va laisser un petit blanc entre la fin de la chanson et le début du discours, pour laisser la possibilité aux gens de le passer ou de ne pas le passer. On était convaincus que si on mettait le discours dans la chanson ne passerait jamais à la radio. Alors souvent les gens nous disaient, ouais, ils n'ont pas passé le discours. Et nous, bon, c'est vrai qu'on disait, c'est vrai, ils n'ont pas passé le discours. Et en même temps, on se disait, mais ouais, mais en même temps, on leur a laissé le choix. On préférait qu'ils passent la chanson sans le discours plutôt que de ne pas passer du tout la chanson parce qu'ils n'auraient pas eu le choix. Donc c'était un petit calcul de notre part, très malin je pense, parce qu'à l'arrivée il y a aussi des gens qui l'ont passé avec le discours, notamment les premiers à le passer avec le discours, Là-bas si j'y suis, voilà, et tous ces gens qui font partie de cette famille là, comme ça, d'expression libre. Ah ben, enfin, on se sent complètement appartenir à cette famille là. Zebda, cette apparence de, j'allais dire, de cohérence, de construction complémentaire par rapport au discours porté en chanson, c'est parce que Zebda est le fruit d'une histoire associative. Zebda, c'est né d'une association dans le quartier nord de Toulouse. C'est pas à un moment un groupe de musique parce qu'il rencontre une dynamique, se met à créer des dynamiques militantes. Non, c'est l'inverse. Donc on a toujours été dans l'idée que ok, on est un groupe, on fait des chansons, tout ça et tout, mais à un moment, on a un état d'esprit dans lequel il y a aussi des gens qui font partie de l'aventure, mais qui ne sont pas sur scène. Ce sont des militants, des gens de terrain. Donc, on a toujours essayé de mettre en pratique cette cohérence-là, mais on l'a fait aussi naturellement, pas qu'on était plus fort que les autres, c'est que notre histoire le permettait, parce qu'on était ancré dans une dimension militante. C'est cette dimension-là qui va faire qu'à un moment, on va avoir une dimension militante culturelle dans les quartiers populaires nord de Toulouse. Et c'est comme ça qu'on va créer Zebda. Et quand on va créer Zebda, on va se rendre compte que c'est génial, en fait. Un groupe de musique, c'est extraordinaire parce que C'est un formidable outil pour faire des choses, pour partager l'espace, pour occuper l'espace public, pour faire des tas de choses au quotidien. Et puis surtout, ça nous procure de l'autonomie économique, puisqu'on ne devient pas éducateur, on ne devient pas dépendant des institutions, des collectivités locales. On est musicien, on gagne notre croûte avec ça, on est même capable de produire, de développer. Et du coup, notre parole se libère, parce qu'on devient autonome. Et comme on a une certaine expérience militante, notre parole est plutôt construite. Et c'est comme ça qu'on va avoir l'idée de l'album motivé, même en se disant, bon, qu'est-ce qu'on pourrait continuer à apporter à cette dynamique militante. Et l'idée des chansons, elle est arrivée, puis c'était une belle idée, puisque ça a fonctionné, je pense, tout de suite. C'est ce que les gens attendaient, c'est une idée de conjoncture.
C'est vers 97, vers 98, voilà,
97, 98. Ensuite, dans cette dynamique-là, quand on se rend compte que, en fait, on devient puisant, puisqu'on a du succès. Puisqu'en 98, on va sortir Essence Ordinaire, C'est tomber la chemise. Enfin, tu vois, on a du succès, on fait des zéniths, on fait un vrai succès populaire. C'est pas anodin, parce que, si tu veux, dans le monde de la musique, il y a des tas de gens qui ont des succès, qui ont toujours eu plus de succès que nous et tout. Mais finalement, nous, on a fait un tube hyper populaire. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Nous, on a fait un truc méga populaire. Un vrai tubas. Un truc de malade. Un vrai hit. Donc, du coup, quand on arrive avec ce statut de personnage public beaucoup plus puissant, eh bien, on ne fait qu'adapter l'idée que à quoi ça peut nous servir tout ça dans nos dimensions politiques. Et comme on est quand même assez public, eh bien, la première opportunité, c'est les élections municipales de 2001. Et là, on va lancer un appel dans la presse en disant aux gens, nous, on veut créer une liste citoyenne aux élections. Ceux que ça intéresse, rejoignez-nous tel jour à telle heure. Et voilà, avec le roi qui avait le groupe à l'époque et tout, effectivement, on s'est retrouvé avec beaucoup de monde de tous horizons, professionnels, culturels, sociaux, qui se disent ah ouais, c'est super intéressant, ces thématiques-là. Et il se trouve que sur les premières AG, on n'a pas encore le nom du mouvement. Et puis très vite, le nom dans les premières assemblées, ce qui va se dégager, c'est que le mouvement, ce serait bien de l'appeler motivé, en fait, comme l'album. Le mouvement, ce serait bien de l'appeler motivé, en fait. La différence, ça va être le tiret E, tiret S. Parce que comme à l'époque, dans ce mouvement-là, il y a bien sûr la question de la parité, homme-femme, que nous, on est plutôt dans un univers entre nous, dans nos histoires, que des bonhommes. Donc on se dit, pour qu'il y ait des filles, il faut qu'on appelle des filles militantes. Donc on va appeler des filles militantes féministes qu'on connaît. Et on va leur dire, voilà, nous, on ne veut pas seulement qu'il y ait des femmes pour qu'il y ait des femmes, on veut qu'il y ait des femmes qui soient militantes. Et elles vont nous dire, quand on va chercher le nom, elles vont nous dire, le E, il est hors de question que le mettre entre parenthèses. Donc on fait tirer E, tirer S. C'est important parce que c'est un truc qu'on voit partout maintenant, mais qu'en fait, ça a été créé à ce moment-là. Et donc, on va faire cette expérience de la campagne électorale qui va avoir un gros succès. On va être dépassé même au bout d'un moment.
Toulouse, Toulouse, la ville de Rose. Toulouse, Toulouse.
Mais je pense qu'on était avant-gardiste quand même. Parce qu'après, on a vu émerger des mouvements en Espagne, en Grèce, et même en France, qui parlent un peu de la même démarche, quoi. Citoyenneté, démocratie participative.
Ça se fait avec le soutien, la complicité et la camaraderie de la LCR, de la Ligue communiste révolutionnaire. Mais je t'entendais dire tout à l'heure, oui, enfin, c'était Podemos avant l'heure.
Ouais, c'est ce que je pense, moi. Moi, je pense qu'on était quand même, quand on regarde les thématiques et la manière qu'on a eu d'aborder cette campagne, démocratie participative, commission, création du programme, une campagne à la sud-américaine, de la musique partout, financée par des concerts. Et il y a eu vraiment des échanges hyper intéressants qui ont amené des tas de gens à des dimensions militantes alors qu'ils ne l'étaient pas du tout avant. Après, on s'est fait dégommer par la gauche.
Par la gauche, tu veux dire le PS ?
Entre autres.
Mais c'est pas un parti de gauche, je me oui, tue. Mais...
Non, mais entre autres. Mais c'est vrai qu'à un moment, on arrivait sur un terrain c'était un peu comme si on touchait à leur gamelle, quoi. Hein, donc ça a été assez violent. Mais ils ne sont pas responsables de l'échec du projet, parce que finalement, le projet politique, il a disparu petit à petit. Mais c'est aussi parce que c'est très compliqué à faire et qu'on était sincèrement dépassés. Après cette aventure-là, on s'est dit, bon, on va continuer à mener notre action associative et rester militant, ce qu'on est toujours aujourd'hui, mais sur des questions qui nous semblent, voilà, sur lesquelles on considère qu'ils sont nos priorités. En fait.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Hey, motivé, motivé.
Ici Londres. Veuillez écouter quelques messages personnels. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. Le chien du jardinier pleure.
Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
De Zebda et Démotivé ont donc culminé avec d'immenses succès populaires et médiatiques. Et l'histoire continue, Mousse.
Ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Ce qui s'est surtout jamais arrêté, c'est le fait qu'on fasse de la musique et qu'on soit dans ce rapport-là qu'on aime beaucoup avec mon frère Hakim. On est les musiciens de la bande. On est capable de créer des dynamiques musicales, on sait le faire, on a de l'expérience, on a plein de potes zikos autour de nous, et on a aussi plein de potes militants, plein de potes amis, garçons, filles qui se mobilisent pour faire des choses. Et nous, on considère que cette complémentarité-là, elle donne du sens à notre vie de musicien. Savoir où on peut jouer, à quel moment on peut jouer, pourquoi, à qui on peut rendre service, comment on peut faire tel truc pour faire telle autre chose. Donc, voilà, en fait, la réalité, c'est qu'on fait de la musique. On est les musiciens de la bande et qu'on fait de la zik. Et que quand on fait des concerts de motivés, d'origine contrôlée, même de Zebda, c'est pas des meetings. C'est l'idée d'être sur scène et de partager un moment avec des gens qui sont là par hasard, soit qui sont venus exprès, mais qu'à un moment, que les gens puissent partir en se disant « Putain, ça fait du bien, quoi ». Et que c'est notre rôle en tant que zikos, c'est ce qui fait qu'on est encore zikos aujourd'hui. Et c'est formidable.
Juste pour clore, parce que là, faut que tu t'en ailles, mais quand même...
Alors, c'est vrai qu'il faut que je préserve ma voix, là, parce que si on parle 3 heures et que je peux pas chanter derrière, ça serait quand même vraiment dommage.
On va faire court, puisqu'on va se faire du mal.
Résultat du premier tour de l'élection présidentielle.
21 avril 2002.
En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
Silence. Un instant de silence et de réflexion au milieu de tant de lumière et de tant d'harmonie. Silence.
Il n'y a toujours pas d'arrangement. Voilà, c'est pas bien ce que je vous dis, parce que je suis sûrement un suppôt du fascisme.
Ah j'avais, bon
oui, parce que j'ai voté beaucoup de fois à droite. Hein. J'ai voté pour Hollande, j'ai voté Mitterrand, même je crois que je suis assez vieux, assez bête pour avoir fait ça. Et puis la plus belle de toutes, c'était quand même 2002, quand j'ai voté Chirac.
T'as pas voté Macron, là?
Et là, j'ai pas pu. J'ai voté blanc. Mais voilà, j'étais à moitié merdeux, hein, d'envoyer les copains faire le sale boulot. Et je dis, mais merde, la droite, PS compris, est bien assez nombreuse comme ça pour s'occuper de cette merde-là. Moi, je
botte
en touche.
C'est pas pour ça que t'es un suppôt du fascisme.
Le dimanche soir du premier tour, t'as des gens d'un seul coup qui se sont rappelés que les nazis étaient des gens qui étaient parfois pas gentils. Et qui d'un seul coup s'improvisaient des leçons d'antifascisme.
Dis, voilà, bien sûr. Mais après, il y avait aussi des gens qui te donnaient des leçons d'antilibéralisme. Enfin, je veux dire, il y avait un peu de tout. Mais je pense que c'est un peu lié au, comment dire, à la mascarade électorale.
En allant voter blanc, c'est ouais, bien ce que je me suis dit, il n'y a toujours pas d'arrangement, quoi.
Ouais. Bien sûr, il n'y a toujours pas d'arrangement, c'est la manière la plus juste de dire qu'en fait, on peut faire des compromis, on peut être dans la concession, mais pas en permanence. C'est-à-dire qu'on peut le faire à un moment où on veut atteindre un objectif. La réalité, c'est qu'il n'y a toujours pas d'arrangement avec ceux qui ne respectent pas la nature humaine. Voilà, et là, il n'y en a pas. Et des fois, t'en trouves même à l'extrême gauche, des gens comme ça qui ne respectent pas la nature humaine. T'en trouves beaucoup plus à l'extrême droite. La majorité, on le sait, puisque c'est le fondement de leur idéologie.
Il n'y a pas d'arrangement, 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 il n'y a pas d'arrangement.
On ne va pas, par exemple, tous les deux se parler entre convaincus, de se dire le Front National, c'est pas bien, ok. Hein. C'est plus ce qui est intéressant, c'est le débat qu'on peut avoir, nous, à gauche, pour savoir comment on peut reconstruire quelque chose, à partir de quel dénominateur commun. Moi, je suis convaincu qu'on peut arriver à faire des choses à partir du plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour faire des choses ensemble. Et y compris, je considère qu'avoir un parti unique, ça ne sert à rien. On est forcément des nuances, toi et moi, des points de vue différents, qu'on peut débattre à l'occasion. Mais à l'occasion. Et là où il n'y a pas d'arrangement, c'est que il y a une certaine situation où tu me trouveras toujours à côté de toi. Voilà. C'est ça la réalité du « il n'y a toujours pas d'arrangement ». Toujours une situation où je me retrouvais à côté d'un musulman discriminé ou d'une femme voilée discriminée ou à côté d'un juif insulté ou à côté d'un homosexuel humilié. Il me trouvera toujours à côté de lui. Pour Marave, qui celui, entre guillemets, avec la bouche, hein, mais pour défoncer celui qui a priori me ressemble, mais pratique cet anti-humanisme. C'est là qu'il n'y a pas d'arrangement. C'est être aux côtés des uns des autres, parce qu'au bout d'un moment, le truc sur lequel on peut le plus agir, finalement, ça serait presque la fraternité. Parce que c'est là-dessus, peut-être, qu'on peut travailler la capacité d'empathie. Et la volonté de bienveillance. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux aussi regarder quelqu'un, toi, avec ton regard conscientisé, en te disant, cette personne tient un discours aberrant, mais je suis capable d'avoir de l'empathie pour lui, parce, pour elle, parce que je pense qu'en fait, elle fait juste une erreur. Ou elle est juste manipulée. Je ne dis pas qu'il faut tout excuser, tout pardonner, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il faut arrêter de moraliser tout. Tu as voté blanc, moi j'ai voté Macron. Et j'ai pas envie de te dire pourquoi t'as fait ça, parce que en fait, mais même en talent trop de tour, j'avais envie de convaincre personne. Fais avec ton intime. Moi, j'avais trop peur pour mes amis sans papier, réfugiés. Je voyais un truc comme ça, me disant bon ben. Et surtout, je pense que la particularité par rapport à des amis à moi qui n'ont pas voté, c'est que je sais pas, on est, nous en tout cas dans notre groupe, dans notre mouvement, il y a longtemps qu'on désacralise le vote. C'est quoi? Je vais aller mettre un bulletin dans une urne. Et alors, c'est quoi? C'est pas comme si je mettais mon cœur dans... Non, je vais faire un acte, un geste, dans un contexte de mascarade électorale. Parce qu'élire le plus haut personnage de l'État, comme ça, tous les 5 ans, et se retrouver avec ce genre de personnage à la tête du pays, et tu te dis, bon, ben, c'est le business qui gagne, encore une fois. C'est ceux qui sont le plus... passent bien à la télé, qui font bien... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je suis comme d'autres, hein, comme les Mélenchon, mes mamans, pour la 6ème République. Hein, moi, je suis pour qu'on arrête avec tout ça, quoi. Hein, qu'on modifie tout. Hein. On dit OK. Hein. Bon, enfin, voilà, on va pas développer, sinon on va en parler des heures. Merci à toi. Hein.
Merci beaucoup, Moussa. Très bientôt.
Plaisir. Avec plaisir.
Et voilà.
voilà les amis, on lâche rien, on reste motivé. Vous pouvez réécouter cette émission et plein d'autres choses sur notre site polemix-et-la-voix-off.com et on se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Salut,
terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.